أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Inch'Allah, après deux jours, le 26 décembre va débuter la Jalsa Salana de Qadian. Que Dieu fasse que cette Jalsa soit bénie. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, la Jalsa Salana de Qadian n'avait pas grande ampleur pour quelques années. Elle n'avait pas la même ampleur qu'elle avait avant 1947. Mais depuis les deux dernières décennies, cette Jalsa a pris de l'ampleur par la grâce de Dieu. Et en 1991, le quatrième calife a visité Qadian. Il y avait grand nombre de personnes qui étaient présentes pour la Jalsa. Et après cela, il y a eu un nombre plus important de visiteurs. J'ai visité moi-même Qadian en 2005 et il y avait grand nombre de personnes qui étaient présentes et le nombre de participants est en train de grandir. Il n'y a pas la même présence qu'on a vue en 2005, mais en tout cas, le nombre de visiteurs a augmenté. J'ai reçu des rapports concernant l'organisation de la Jalsa Salana de Qadian et en lisant ces rapports, l'image de la Jalsa de Rabwa m'est venue à l'esprit. 27 ans auparavant, ces jours étaient emplis de joie pour les habitants de Rabwa et pour les Ahmadis du Pakistan. À l'époque, l'on faisait tout pour organiser la Jalsa. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la frénésie partout. Et le bureau des organisateurs de la Jalsa envoyait des formulaires concernant les tâches de la Jalsa dans les écoles de la communauté, des formulaires que les enfants Ahmadi devaient remplir. Ces formulaires concernaient les tâches qu'ils voulaient accomplir pendant la Jalsa. Et si les responsables de la Jalsa n'avaient pas de tâches à leur allouer, ils leur confiaient généralement les tâches qui leur plaisaient. Que ces jeunes aient reçu des tâches qu'ils voulaient accomplir ou que ces tâches leur ont été allouées par les responsables, en tout cas, ces jeunes étaient animés d'une très grande ardeur. Ils étaient animés d'une très grande ardeur pour servir pendant la Jalsa. En 27 ans, une génération a pu atteindre l'âge adulte. Et ceux qui étaient jeunes à l'époque se sont joints à l'Ansarullah et font partie du Safwe Awal. Peut-être que les enfants qui sont nés après n'ont pas eu l'expérience de ces tâches à accomplir. Cela est impossible car la Jalsa n'a pas été organisée après. Peut-être qu'ils ne connaissent pas cela, sauf dans ces maisons où l'on fait mention de la Jalsa. J'ai l'espoir qu'on continue à faire mention de la Jalsa dans ces anciennes familles de Rabwa. S'il n'en est pas ainsi, on doit en faire mention afin de maintenir vivants ces sentiments et cette atmosphère, et afin que les jeunes et les enfants puissent avoir une idée de l'organisation de la Jalsa. On ne doit pas le faire afin que les nouvelles générations soient poussées au désespoir, mais afin que ces nouvelles générations soient déterminées afin qu'ils ne désespèrent pas, afin qu'ils comprennent que ces restrictions temporaires ne seront pas la cause de leur mort spirituelle, afin qu'ils comprennent que ces restrictions ne vont pas les pousser au désespoir et que cela ne va pas les empêcher de se prosterner devant Dieu et de l'implorer, que cela ne va pas faire chanceler leur foi et leur certitude. Ils ne doivent pas se demander « Va-t-on voir ces jours ou pas ces jours durant lesquels les jeunes et les vieux étaient enthousiastes quant à l'organisation de la Jalsa ?» Ces jours durant lesquels tous ceux qui participaient à la Jalsa venaient pour apaiser leur faim spirituelle. Les nouvelles générations doivent connaître ces faits. Les enfants qui vont naître après doivent aussi connaître ces faits. Ceux qui sont nés 15 ou 16 ans de cela sont des adolescents aujourd'hui. Ils doivent savoir comment se passaient les jours de la Jalsa à Rabwa. C'était des jours durant lesquels on embellissait Rabwa comme une mariée qui n'avait pas beaucoup de moyens. On embellissait les marchés. Il y avait aussi des marchés temporaires qu'on mettait en place afin que l'on puisse subvenir aux besoins de ces centaines de milliers d'invités qui était présent pour la Jalsa. Il y avait aussi des trains et des bus spéciaux. On embellissait la maison afin de bien accueillir les invités et on essayait de rendre confortables ces maisons. On plaçait aussi des tentes dans les cours des maisons afin qu'il y ait assez de place pour tout le monde. La plupart de ces maisons étaient très petites et elles ne pouvaient pas accueillir à la fois les invités et les hôtes. Certains hôtes confiaient leur maison tout entière à leurs invités et ils logeaient dans les tentes à l'extérieur. Durant ces jours, les habitants de Rabwam faisaient preuve de sacrifice. Il y avait de la joie sur les visages de tout un chacun. Les gens ressentaient de la joie en servant leurs invités. Ces faits du passé ne se sont pas transformés en rêve. Cela ne doit pas nous pousser au désespoir. Au contraire, Inch'Allah, nous allons voir de nouveau cette joie. Notre tâche à nous, c'est de ne pas désespérer de la grâce de Dieu. Nous devons continuer à l'implorer. Dieu déclare que l'on ne doit pas désespérer de sa grâce. Nous avons ferme certitude dans cette déclaration révélée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Wa man yaqnatu min rahmati rabbihi ila dwaloun » et qui peut désespérer de la miséricorde de son Seigneur sauf ceux qui s'égarent. Nous ne sommes pas désespérés que nous n'allons pas revoir ces jours. Ou comment va-t-on revoir ces jours? Comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous allons revoir ces jours, car nous avons certitude en ce Dieu Tout-Puissant. Le Messie promis, alayhi salam, déclare que lorsque l'âpreté atteint son comble, lorsqu'on ne voit pas d'issue de sortie, Dieu, selon sa loi immuable, prend des nouvelles de ses serviteurs. Si nous faisons preuve d'humilité, si nous implorons Dieu, il viendra certainement à notre aide. Lorsque tous les plans tombent à l'eau, le plan de Dieu agit toujours. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah déclare « Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid » Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'il se soit désespéré et qui répand sa miséricorde. Il est le protecteur, le très louable. Voilà donc comment Dieu agit dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Généralement, Dieu bénis ceux qui ont été poussés au désespoir. Il viendra certainement à l'aide des croyants à propos de qui il déclare Allahu waliyul ladina amanu. Les croyants à propos de qui il déclare qu'il est leur ami. Il ne va pas les pousser jusqu'au désespoir. Il prendra certainement des nouvelles de ceux qui se prosternent devant lui, de ceux qui poussent à l'extrême leur humilité. Il viendra certainement à leur aide et il va certainement leur accorder davantage de grâce. Dieu en fait l'annonce dans ce verset. وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Il exauce les prières de ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et leur accorde une augmentation de sa grâce, l'ampleur des récompenses que Dieu accorde dépasse de loin l'entendement de l'homme. Nous croyons en ce Dieu et cette situation ne doit pas nous pousser au désespoir. Comme l'a affirmé le Messie promis à l'Islam, des fois l'homme pense qu'il n'y a plus d'issue pour lui. Il pense que rien n'est en son pouvoir. Et c'est là qu'il entend la voix « La taqnatu min rahmatillah », c'est-à-dire qu'on ne doit pas désespérer de la grâce de Dieu. Et il voit aussi pleuvoir sur lui les grâces de Dieu. Il nous incombe de passer nos jours et nos nuits dans la prière, en particulier durant ces jours de la Jalsa. Ceux qui sont en train de participer à la Jalsa à Qadian doivent consacrer leur séjour à la prière. Ceux qui sont venus du Pakistan doivent comprendre que seuls les égarés désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ce sont les autres qui désespèrent. Nous ne sommes pas les égarés. Nous sommes de ceux qui ont accepté l'imam de l'époque et par son entremise, Dieu nous a fait sortir des ténèbres pour nous apporter vers la lumière. Il nous a montré comment marcher sur la voie droite au lieu de s'égarer dans les ténèbres. Généralement, les Ahmadis comprennent cette vérité. C'est pour cette raison qu'ils endurent ces souffrances. C'est pour cette raison aussi qu'ils renforcent leur foi. C'est pour cette raison aussi qu'ils ne se soucient pas de ces souffrances que leur font endurer les opposants de l'Ahmadiyya. Et c'est pour cette raison aussi qu'ils enterrent leurs martyrs dans la dignité, sans se lamenter et sans protester, et qu'ils retournent chez eux en prière après ces enterrements. Et ils font couler leurs larmes uniquement devant Dieu. Mais il y a quand même certaines personnes qui sont victimes de leurs soucis, des personnes qui ont certainement une très bonne connaissance de la religion. Il y a même parmi elles des personnes qui travaillent pour la communauté. Certains m'ont écrit à ce sujet et me disent que ces jours de persécution sont en train de perdurer. On parlait de demain et d'après-demain, mais on ne voit pas venir ce lendemain prometteur. Que l'on sache que les jours n'ont aucune importance dans l'histoire des peuples. Quelques années aussi n'ont aucune importance dans l'histoire d'un peuple. Les peuples qui progressent ne se contentent pas d'un seul objectif. Ils ont en tête le progrès collectif du peuple et de la nation. Par la grâce de Dieu, après ces périodes difficiles au Pakistan, le progrès de la communauté Ahmadiyya a pris de l'ampleur. Même au Pakistan, il y a eu, par la grâce de Dieu, beaucoup plus de progrès qu'auparavant. Certainement, il y a certaines restrictions. Certainement, il y a des difficultés. Certainement, il y a eu des pertes de vie et de biens. Il y a aussi le désir de la part du calife de rencontrer les Ahmadis de là-bas directement. Et il y a aussi le désir des Ahmadis de là-bas de rencontrer le calife en personne. Certes, ses désirs et ses attentes sont là, mais Dieu, de par sa grâce, nous a accordé ce moyen de pouvoir se rencontrer qu'est la MTA. Il est vrai qu'on ne peut pas organiser de Jalsa et d'Ijtema au Pakistan, mais grâce à la MTA, tous les Ahmadis du monde entier et les Ahmadis du Pakistan aussi participent dans ces Ijtema et ces rencontres. En dépit de ces restrictions, Dieu n'a pas fermé la porte à ses mis spirituels. Puisque Dieu nous a accordé autant de faveurs, l'on ne doit pas à aucun moment faire de la place au désespoir en son cœur. Durant ces jours, les Ahmadis de Rabwa et les Ahmadis du Pakistan doivent transformer leur désarroi en prière. On doit transformer cela en prière. J'ai en mémoire l'atmosphère joyeuse de Rabwa pour la Jalsa. J'ai en tête aussi cette atmosphère pure au cours de la Jalsa. Et je médite aussi sur le décret de Dieu, le décret qui concerne la victoire de l'Ahmadiyya. Et tout Ahmadi doit en faire de même. Le décret de Dieu concernant la victoire de la foi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toutes les autres fois. Ce décret qui est d'unir la majorité de l'humanité sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce décret qui va prouver la véracité du Messie promis à l'humanité comme à la majorité des habitants du Pakistan, des preuves qui vont se manifester par des grands miracles. Nous devons donc embellir nos prières et faire preuve d'une grande humilité face à Dieu et lui demander de nous faire fort au cours de notre vie à l'accomplissement de son décret. J'ai aussi en mémoire l'atmosphère pure et joyeuse de Rabwa. Je me souviens des va-et-vient des hommes et des femmes sur les rues de Rabwa. Mais même dans ce va-et-vient incessant, il n'y a jamais eu de bousculade. Les hommes et les femmes savaient comment se comporter. Et s'il y a eu des lacunes quelque part, les jeunes qui étaient de faction pour contrôler la circulation dirigeaient les passants dans la bonne direction. Et ces passants suivaient leurs directives et se plaçaient là où ils devaient le faire. Il y avait une file continuelle de passants, comme une rivière qui coulait. Les gens partaient vers la Jalsaga et retournaient de là-bas après les sessions. Il y avait d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Tous les hommes respectaient la dignité des femmes et chaque femme faisait preuve de pudeur. Il n'était pas question que les hommes ou les femmes se croisent. Il n'était pas question de bousculade. L'on respectait la modestie islamique, l'on baissait le regard. Cela nous ramène à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans les rues de Médine. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait dit que les hommes et les femmes devaient marcher séparément en longeant les murs. Et les musulmans d'alors ont respecté à la lettre ces préceptes. Et il est dit que certaines femmes marchaient si près des murs qu'elles y accrochaient leur voile. Tout cela parce qu'elles faisaient preuve d'une grande obéissance. Tout cela parce qu'elles savaient préserver leur dignité et leur modestie. Comme je l'ai dit, nous avons vu cela à Rabwa durant les jours de la Jalsa. L'on y voyait l'exemple pratique des enseignements de l'islam. On voyait cela généralement à Rabwa et en particulier durant les jours de la Jalsa. À Qadian, les ruelles sont étroites et je m'adresse à ceux qui vont y participer et je leur dis qu'il y aura grand nombre de personnes qui seront présentes, des personnes de différentes origines. Et des fois, les gens oublient de marcher là où ils doivent le faire. Au lieu d'attendre des directives de la part des officiels, les hommes et les femmes doivent marcher où ils doivent le faire. 80 à 90 ans de cela, même les autres ont déclaré que Qadian présente l'image des enseignements véritables de l'islam. On doit voir cet exemple aujourd'hui aussi à Qadian. Même des non-musulmans, des non-ahmadis vont être présents au cours de la Jalsa. Les participants doivent aussi être réguliers dans leurs prières. Après l'appel à la prière, vous devez vous tourner vers les mosquées. Et au cours des sessions, l'on doit écouter les discours avec attention. La Jalsa n'est pas une foire, comme l'a dit le Messie promis à l'Islam. Et selon les rapports que j'ai reçus, il y a environ 6 à 7 000 invités qui sont déjà présents à Qadian. Il y aura d'autres qui vont venir. Vous allez donc devoir respecter la dignité de la Jalsa. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues du Pakistan et qui profiteront de cette atmosphère spirituelle. Dieu leur a accordé cette grâce d'être présent en personne là-bas et de profiter de cette atmosphère spirituelle. En tant que croyant véritable, chacun doit essayer de profiter de cette atmosphère. J'ai prodigué quelques conseils et je dois ajouter aussi que tous les participants doivent être prêts à faire des sacrifices. Il ne doit pas y avoir de l'indiscipline. Là où les gens sont en train de loger, il ne doit pas y avoir de l'indiscipline à l'heure des repas. Il ne doit pas y avoir de l'indiscipline non plus à l'heure des sorties ou des entrées. Il y a de l'indiscipline lorsqu'on se préfère aux autres. Il y a de l'indiscipline lorsqu'on essaye de placer ses droits en premier. Si l'on est prêt à faire des sacrifices à toute échelle, il n'y aura jamais d'indiscipline. Il y a certaines personnes malveillantes ou jalouses qui cherchent ces occasions ou qui provoquent même ces occasions afin qu'il y ait de l'indiscipline, afin qu'ils puissent, eux, atteindre leur objectif. Aucun Ahmadi ne doit leur offrir cette occasion. Des occasions qui puissent être la cause du déshonneur de la communauté. Des occasions qui puissent nuire à la communauté. À Qadian, il y a aussi des hindous, il y a des sikhs, il y a des chrétiens. Tous les ahmadis doivent respecter toutes ces personnes. Généralement, les habitants de Qadian sont très gentils. Mais s'il y a des malentendus, vous allez devoir vous maîtriser. Les habitants de Qadian aussi doivent en faire de même. Des fois, à cause de l'honneur d'un invité, certains s'emportent. D'autres s'emportent pour d'autres raisons. L'on ne doit pas s'emporter afin qu'il n'y ait pas de troubles. Et vous devez aussi vous saluer les uns les autres, que vous connaissiez ou pas. Agissez ainsi afin que puisse régner cette atmosphère de fraternité et de sérénité. Durant ces jours de la Jalsa, vous devez vous consacrer aux prières. Ce sont des jours spéciaux pour les Ahmadis du Pakistan. Et les invités qui sont venus d'ailleurs et d'autres pays, et ceux qui sont de l'Inde aussi, doivent passer leur journée en prière. Les participants de la Jalsa doivent consacrer chaque moment à la prière. Ils doivent agir ainsi, car tel est le but de leur présence. Ils sont venus à la Jalsa afin de profiter spirituellement de ces moments. Ils sont venus ici afin qu'ils puissent se réformer spirituellement et ils n'ont pas d'autre objectif. Dieu leur a accordé l'occasion de se réunir en grand nombre dans la ville du Messie promis alayhi salam et de profiter de cette atmosphère spirituelle. Dieu vous offre l'occasion de l'implorer. Implorez donc la grâce de Dieu. Remerciez-le pour ses faveurs. Ceux qui sont venus du Pakistan doivent prier pour les Ahmadis du Pakistan et pour leur pays. Dieu, de par sa grâce, nous accorde ce réconfort en disant « Ud'urni astajib lakum ». Implorez-moi et je vais exaucer vos prières. Lorsque l'occasion vous est offerte, en tant qu'un serviteur de Dieu, vous devez en profiter. Ce sont les Ahmadis du Pakistan qui sont dans la plus grande détresse. Dieu déclare que j'exauce la prière de celui qui est en détresse. Durant ces jours, présentez votre détresse en pleurant devant la face de Dieu. Faites en sorte que vous soyez de ceux qui profitent de ses promesses. Allah déclare « Amman yujibu d-dharra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkaroun » Ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. À ce sujet, le Messie promis alayhi salam déclare: les signes de l'acceptation d'une prière se manifesteront lorsque cette prière atteindra le niveau le plus critique de la détresse. Ayant atteint ce niveau critique, Dieu manifeste les signes de l'acceptation de cette prière. Du ciel, Dieu met en place les moyens pour son acceptation et il manifeste les signes de cette acceptation sur terre. Ce n'est pas quelque chose d'insignifiant, mais c'est une grande vérité. Celui qui veut voir la manifestation de Dieu doit tout le temps l'implorer. Pour voir les effets de votre prière sur terre, vous allez devoir frapper à la porte du ciel. Vous, les quelques milliers d'Ahmadis du Pakistan qui vont partir à Qadian afin de pallier vos manques, afin de profiter de cette atmosphère spirituelle, vous allez devoir diriger cette détresse dans la bonne direction et vous allez devoir chercher les provisions pour votre survie spirituelle et matérielle. Il y a aussi des personnes qui sont parties là-bas en tant que bénévole afin d'aider dans l'organisation de la Jalsa. Ces personnes ne doivent pas uniquement se contenter d'accomplir leurs tâches, elles doivent aussi se souvenir de Dieu et se consacrer aux prières. Que Dieu vous en accorde l'occasion à vous tous. Comme je l'ai dit, il n'y a pas uniquement des Pakistanais qui y participent. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, doit profiter pleinement de ce moment spirituel. Les Pakistanais en particulier sont dans cette grande détresse. Ils doivent présenter leur détresse à Dieu. Allah déclare qu'il écoute ceux qui sont en plein désarroi. Des personnes qui sont en désarroi et qui ne prient pas uniquement pour leur propre personne, mais qui prient aussi pour le progrès de la communauté. Des personnes qui prient aussi pour le progrès de la foi du saint prophète dans le monde. Dieu écoute certainement la prière de telles personnes qui sont en détresse. Des personnes qui, par sympathie pour toute l'humanité, prient aussi pour que Dieu protège chaque personne de la destruction, quelle que soit sa foi. Dieu écoute certainement les prières de telles personnes, des personnes qui sont imbues de sympathie pour l'humanité et pour leurs coreligionnaires. Dieu ne se contente pas de déclarer qu'il va exaucer leurs prières et qu'il va faire disparaître leur désarroi et qu'il va arrêter les mains de ceux qui sont en train de les faire souffrir. Dieu ne remédie pas à cette situation en enlevant la source de cette souffrance. Il déclare « Yaj'alakum khulafa al-ard » « Il fera de vous les héritiers de la terre ». Il l'a fait dans le passé et il va le faire aussi à l'avenir. Tel est son décret. Il n'est pas question donc de désespérer. Non seulement qu'il va mettre fin à vos souffrances, mais après avoir enlevé ces souffrances, il vous accordera la terre en héritage. Ne vous lamentez pas sur votre état. Ne vous impatientez pas. Ne vous demandez pas quand viendra ce lendemain meilleur. Si vous faites preuve d'humilité, eh bien, ce jour viendra certainement. Non seulement que vos jours de souffrance vont disparaître, mais vos adversaires seront sous votre autorité. Prosternez-vous devant ce Dieu véritable. Acquittez-vous de vos devoirs envers lui. Mettez de côté toute forme de désespoir. Mettez de côté toute forme de polythéisme, secret ou pas. Protégez-vous-en et protégez aussi vos descendants. Et certainement, nous allons continuer à profiter des faveurs de Dieu. Inch'Allah. Dieu est extrêmement bienveillant. Il déclare que je vais multiplier les récompenses que je vais vous accorder en raison de vos prières qui étaient pleines de détresse. Je vais vous accorder plus de fruits que vos prières. Ne doutez pas de vos prières. Allah déclare que je suis très proche de vous. Je suis proche de vous et j'exauce la prière de celui qui me supplie en toute sincérité, mais à condition que vous fassiez preuve de constance dans vos prières, à condition de répondre à mes appels, à condition de répondre à mes appels. Le Messie promis, alayhissalam, déclare que la période entre la prière et son acceptation est une période de grandes épreuves, des épreuves qui peuvent briser les chines. Mais celui qui est constant dans ses prières va sentir au cours de ces épreuves le parfum de son Seigneur. Et grâce à sa perspicacité, il voit que Dieu va certainement lui accorder son soutien. En tant que communauté, en tant que Jamaat, en dépit d'hostilité, de cette persécution, nous ne sentons pas uniquement ce parfum. Au contraire, nous sommes en train d'en consommer les fruits. Certes, nous sommes très tristes après chaque perte de vie. Nous sommes très tristes après chaque martyr. Nous en souffrons. Nous sommes tristes. Mais ces martyrs, ces sacrifices ont été acceptés par Dieu. Et ces sacrifices sont en train d'apporter des fruits pour la communauté. Le Messie promis l'Islam a déclaré que grâce à ces épreuves, le croyant redouble d'ardeur dans ses prières. L'enthousiasme à prier grandira lorsque grandira le désespoir. Et c'est un des moyens pour l'acceptation des prières. L'on ne doit donc pas désespérer. L'on ne doit jamais entretenir des doutes quant à l'acceptation de ses prières par Dieu. L'on ne doit jamais penser que nos prières ne seront pas acceptées. Si l'on entretient de tels doutes, cela veut dire qu'on rejette l'attribut de Dieu qu'est l'acceptation des prières. Si vous êtes en train de douter de ces prières, eh bien vous êtes en train de rejeter cet attribut de Dieu. Aujourd'hui, hormis les Ahmadis du Pakistan ou hormis ces Ahmadis de certaines régions de l'Inde qui sont persécutés ou de ces autres pays où les Ahmadis sont en train d'être persécutés, hormis ces Ahmadis, qui peut comprendre le sens de la détresse et du désarroi? Lorsqu'il y aura cette détresse, l'on se rapprochera du moment de l'acceptation de ces prières. Je m'adresse donc à tous ces Ahmadis qui participent à la Jalsa. Je m'adresse aux Ahmadis du Pakistan, ceux qui sont en train de participer à la Jalsa Akkadian, et je leur dis de transformer leurs larmes de détresse en prière et de pousser cette détresse à son seuil le plus critique. Et plus qu'auparavant, ils doivent faire de ces prières une partie intégrante de leur vie afin que vous puissiez apporter une révolution véritable. Le Messie premier l'Islam a déclaré que tous les prophètes qui sont venus au monde ont enseigné la prière. La prière est le moyen d'établir ce lien entre le Créateur et les hommes. Il est très difficile de suivre cette voie, mais Dieu facilitera la voie à celui qui la suit. La prière facilite cette tâche. Lorsque l'homme implore Dieu constamment, il se transforme en une autre personne. Il sort de cette oppression spirituelle et ressent un grand confort. Il se débarrasse de toute arrière-pensée et de toute forme d'ostentation et endure toutes ses souffrances pour la cause de Dieu. Il endure uniquement pour la cause de Dieu ces souffrances que les autres ne pourront pas endurer. Dieu, qui est miséricordieux, fait disparaître toutes ces souffrances. Il transforme ces souffrances en joie et en confort. Que Dieu nous accorde l'occasion de prier en ce sens, que Dieu exauce nos prières, qu'il éloigne ses souffrances et qu'il transforme ces souffrances en corps fort et que nous soyons tout le temps parmi ses serviteurs qui sont sous le regard de son amour. Aujourd'hui aussi, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Un de nos jeunes est tombé à martyr à Mardan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il s'appelait Cheikh Omar Javed. Il était en compagnie de son père, Cheikh Javed Ahmad, et de son cousin, Cheikh Yassir Mahmoud. Ils retournaient de leur magasin dans leur voiture vers 9h moins le quart quand des assaillants les ont poursuivis à moto et leur ont tiré dessus. Le martyr était assis sur la banquette arrière. Il a reçu des balles à la tête et à l'épaule. Il est décédé sur le coup. Son père, qui était assis devant, a reçu une balle à l'épaule. Et Cheikh Yassir, qui conduisait la voiture, a été blessé à la main par un éclat de verre. Les blessés ont reçu des traitements médicaux et sont sortis de l'hôpital par la grâce de Dieu. Qu'Allah leur accorde une bonne santé. La voiture a été criblée d'environ 17 à 18 balles. En tout cas, les coupables ont pu prendre la fuite. Par la grâce de Dieu, dans cette région du Nord, il y a encore un sens de nobilité et le père du premier ministre de la province a visité les blessés à l'hôpital et il a aussi donné des directives aux responsables de l'hôpital. Il a présenté aussi ses condoléances à la famille endeuillée. En 1907, Cheikh Niazuddin avait prêté allégeance aux mains du Messie promis. Il était un compagnon du Messie promis à l'Islam. Et le grand-père du martyr avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. Il y a eu plusieurs martyrs dans cette famille. Il y avait une attaque suicide contre la mosquée de Mardan et le cousin de ce martyr, Amir Raza, est décédé au cours de cette attaque. Son oncle aussi est tombé en martyr au cours du mois de novembre et un de ses cousins aussi a été blessé au cours de cette attaque. En 1974, un de ses parents aussi est tombé à martyr. Depuis 1974, donc, il y a plusieurs membres de cette famille qui ont été tués. Mais en dépit de toutes ces difficultés, ils ont fait preuve d'une très grande bravoure. Après le martyr d'un de ses parents, je crois que j'avais parlé à Cheikh Omar. Et tous avaient dit qu'ils allaient faire preuve de patience et de persévérance. On a intenté une vingtaine de procès à l'encontre de Cheikh Mahmoud et de son beau-père. Ils ont même été emprisonnés en raison de leur appartenance à la communauté. Deux des oncles du martyr ont été condamnés à 5 ans de prison, alors que selon la loi, la peine maximum était de 3 ans. En tout cas, la Cour suprême les a relaxés. Plusieurs membres de leur famille ont été kidnappés. On avait placé une bombe dans un de leurs magasins. Le martyr, quant à lui, travaillait avec son oncle, il était Nazim Khidmat-e Khalq. Il était le commissaire au compte de la communauté dans la région de Mardan. Il prenait des précautions, et moi-même je leur avais dit de prendre des précautions. Ce jour-là, ils étaient tout près de leur maison lorsqu'on leur a tiré dessus. Il s'était marié 2 ans auparavant et son épouse va bientôt accoucher. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance et qu'Allah leur accorde aussi sa protection. Que Dieu exalte le statut du martyr et qu'il accorde patience et persévérance à la famille endeuillée. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire.